Lucien, pour cette introduction magnifique à notre sujet des psaumes 120, 121. Voilà, un petit ajustement pour que je ne sois pas obligé de crier. Oula, devant mon nez, oui, c'est un peu proche, oui, oui, c'est ça. Les techniciens vont pouvoir tout ajuster. Cette nuit passée était une nuit exceptionnelle sur la planète Terre. Savez-vous pourquoi? C'était la pleine lune. C'était la pleine lune. Mais c'était aussi une soirée exceptionnelle à travers la planète, car il y a des centaines de milliers, sinon des millions de personnes qui ont dormi dans un autre lit comme nous, notre lit, hein, et qui n'ont peut-être pas aussi bien dormi que d'habitude, à travers la planète. Il s'agit du peuple juif qui, hier soir, a commencé la fête de Sukkot. Vous connaissez la fête du Sukkot? C'est parfois appelé la fête des tabernacles. Quand les Juifs du monde entier, souvent, vont planter une tente dans leur cour, ou ils vont un peu faire semblant chez eux. Parfois, on met une canapée sur la table. Pourquoi? Pour se rappeler des jours quand le peuple d'Israël était des migrants, des pèlerins, des gens en marche. Et pendant une semaine, ils fêtent ça, depuis hier soir. Donc nous sommes en bonne compagnie. Et savez-vous, les psaumes que le peuple d'Israël chante pendant cette semaine de la fête de Sukkot, la fête des tabernacles, ils commencent en chantant le psaume 120. Le psaume que nous allons regarder, ils poursuivent par le psaume 121 et ils continuent. Nous allons nous arrêter après le psaume 121, ne rassurez-vous, parce que nous n'avons pas toute la semaine ensemble, mais en quelque sorte, nous sommes non pas en communion en Jésus-Christ avec les Juifs, mais nous sommes en souvenir que nous venons de là et que nous partageons ces beaux psaumes. Ce matin, nous allons considérer trois questions. Premièrement, que sont les psaumes? Deuxièmement, nous allons regarder le message de ce psaume, ce premier 120, et ensuite voir comment le 120 prépare et introduit le 121. Donc pour commencer, que sont les psaumes? Quelques traits caractéristiques. Premièrement, les psaumes sont avant tout des prières. 150 prières. Et par ces psaumes, les croyants depuis 3000 ans ont appris à parler avec Dieu. Au cours de cette longue histoire, les psaumes sont devenus comme une sorte de manuel d'instruction à la prière, pour former et entraîner à la prière personnelle, la prière en famille et aussi la prière en Église. Depuis la venue de Jésus-Christ, les chrétiens reconnaissent que les psaumes parlent de Jésus, mais de manière voilée, par des images qui ont préfiguré le Christ. Le roi David était une de ces préfigurations. Et le temple, le bâtiment du temple, en était un autre. Le Nouveau Testament cite régulièrement les psaumes pour montrer à quel point Jésus en est le centre. Donc, un premier trait caractéristique des psaumes, il nous forme à la prière et montre à quel point Jésus en est le centre. Un deuxième trait caractéristique des psaumes, ils sont inspirés de Dieu, comme tous les livres de la Bible, mais ils sont différents des autres livres de la Bible. Pourquoi? C'est parce que les psaumes sont de la poésie. Et un des traits, un des caractéristiques de la poésie, c'est de communiquer avec des images. Si je dis « ma mère était une bonne personne », si je dis ça, c'est vrai, c'est une affirmation vraie. Mais si je dis « ma mère était une perle », je dis plus hein, que si je dis simplement « elle était une bonne personne ». L'image de la perle communique plus que la simple objectif bonne. Par ailleurs, si je dis « ma mère était une perle », et si je le dis avec une certaine émotion, je parle autant de ma relation avec elle que d'elle-même. Je parle de moi-même en utilisant cette image. Et lorsque vous m'entendez dire « ma mère était une perle », peut-être ça suscite chez vous de la curiosité. Hein? Vous aurez peut-être envie de venir me voir cet après-midi pour que je vous raconte ce que je ferai bien volontiers, en quoi ma mère, pourquoi ma mère était pour moi une perle. Les images nous invitent à réfléchir. Les images mettent en mouvement notre esprit, notre imagination, pour chercher le rapport entre l'image et la chose à laquelle elle se réfère. Les images dans les psaumes provoquent notre curiosité et notre réflexion pour chercher leur signification et leur pertinence. Par exemple, quand nous disons « le Seigneur est mon berger ». La question implicite est posée, en quoi Dieu est comme un berger? Les psaumes nous font réfléchir. Ils ont un rôle qu'on pourrait appeler éducatif. Un professeur de mathématiques donne des problèmes à résoudre à ses élèves sans donner tout de suite les solutions, si c'est un bon professeur. De même, les images des psaumes suscitent en nous les questions. Qu'est-ce que cette image veut dire? Qu'est-ce que cette image veut dire pour moi? Les images des psaumes n'y répondent pas immédiatement. Elles nous mettent en route, en réflexion, pour chercher et découvrir le message qu'elles contiennent. Voilà donc un deuxième trait des caractéristiques des psaumes. Ils sont des poèmes qui emploient des images pour nous faire réfléchir. Et le troisième trait caractéristique des psaumes, nous remarquons que certains sont groupés en séries qu'on pourrait appeler les collections des psaumes. Dans ces séries, le message d'un psaume particulier est clarifié et expliqué par le psaume suivant, un peu comme les chapitres dans un livre. Il y a, par exemple, la série des psaumes 113 à 118, chantés pendant la fête de la Pâque, appelés les Hallel, les psaumes Hallel. Jésus a chanté ces psaumes avec ses disciples avant de mourir. Et il y a la série des cinq derniers psaumes, 146 à 150, exubérants, ces cinq psaumes-là, chacun commençant et terminant par le mot « Alléluia ». Et il y a la collection des 15 psaumes, allant du 120 au 130, que les Juifs dans le monde entier vont chanter cette semaine, du 120 au 130, appelés les cantiques des montées. Et on les chantait habituellement pendant les pèlerinages annuels à Jérusalem. Et dans un instant, nous allons regarder les deux premiers dans cette série. les cantiques des montées sont structurées d'une manière assez particulière, selon trois thèmes: la consternation, la confiance et la célébration. Dans le premier des cantiques des montées, le psalmiste exprime principalement sa consternation, son désarroi. Il n'est pas heureux, et on va le sentir tout à l'heure en le lisant. Dans le psaume 21, nous ressentons l'arrivée de la confiance. Et le 122 est festif et célébratif. Dans le 122, le pèlerin chante « Ah, je suis dans la joie !» Enfin, je suis arrivé à tes portes, Jérusalem, vous voyez, le pèlerin est arrivé, il est heureux, il a envie de crier. Le psaume 100 que nous avons chanté hier soir est un psaume de célébration. Et cet après-midi, nous allons considérer une autre psaume de célébration. Remarquons que le mouvement consternation, confiance, célébration caractérise l'histoire de tout l'Ancien Testament et aussi l'histoire de Jésus. Jésus était rejeté par son peuple et sur la croix, il a crié avec consternation, le psaume 22, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et malgré sa souffrance, à la toute fin de sa vie, il a montré sa confiance en son Père en priant « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et avant d'aller vers la crucifixion, Jésus a célébré comme en avance sa résurrection par le psaume 118, le dernier dans la série des Hallel. Et depuis, le psaume 118 est chanté depuis 2000 ans dans les églises chrétiennes comme le psaume de la résurrection. Voilà donc un troisième trait caractéristique des psaumes, c'est qu'on les comprend mieux quand on les connaît dans leur série. Regardons maintenant comment le psaume 120 nous conduit au psaume 121. On va le mettre ici et je vais le lire en vous demandant quels sont les mots qui vous frappent, qui montrent à quel point le psalmiste vit dans la consternation, la tristesse, le désarroi. Allons-y. Voilà, au Cantique des Montées. Ou cantique pour la route vers la demeure du Seigneur, oui, de l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Ô Éternel, délivre-moi des lèvres fausses, des langues mensongères. Que te donnera l'Éternel? Comment récompensera-t-il ta langue mensongère? Il t'enverra une volée de flèches bien aiguisées sur la braise de genêt. Malheur à moi, car je vis à Méchec en étranger ou parmi les nomades de Kédar. Bien trop longtemps, j'ai habité parmi des gens qui détestent la paix. Je veux la paix, mais quand j'en parle, eux, ils sont pour la guerre. Quels sont les mots ou les phrases qui montrent cette détresse? Allons-y, librement, si vous voulez. Malheur, oui, ça commence. Enfin, malheur à moi. D'autres mots de tristesse, de désarroi. Comment? Détresse. Détresse, oui, c'est le mot principal, oui, dans la détresse. Le mensonge, oui. mensonges, entourés des mensonges. La guerre. La guerre, oui, ça termine par la guerre. Ça commence par le malheur et ça termine par la guerre. Waouh! Détester la paix. Oui, détester la paix. Regardons de plus près ce psaume. Quelle est la cause de la détresse du psalmiste? Comme nous l'avons dit d'après le verset 2, il est troublé par les mensonges de ceux qui l'entourent. Ô Seigneur, délivre-moi des lèvres fausses, des langues mensongères. Au verset 3 et 4, il affirme que ces menteurs vont recevoir ce qu'ils méritent, à savoir une volée de flèches bien aiguisées. Dans la Bible, souvent, la langue est comparée à des flèches. Et là, le psalmiste dit qu'ils reçoivent ce qu'ils donnent, à savoir des flèches aiguisées, une image du jugement. Au verset 5, le psalmiste précise qu'il se trouve dans deux régions très loin d'Israël et très loin l'un de l'autre aussi. « Malheur à moi, je vis au lointain Méchec, en étranger parmi les nomades de Kédar. » Méchec était un pays au nord d'Israël, hostile à Israël. Et Kédar était une région au sud d'Israël, habitée par des peuples bédouins réputés pour leur violence. Le mot Kédar en hébreu veut dire ténèbres. Il était géographiquement impossible pour le psalmiste de se trouver dans ces deux endroits en même temps. Mais par ces deux images, il est en train d'exprimer son désarroi. Et c'est comme si il dit je ne suis vraiment pas à l'aise là où je me trouve. C'est un peu comme si on disait je me trouve à Kaboul, n'est-ce pas, ou à Kiev, deux pays troublés par la guerre. Je suis dans un lieu incertain, insécure, et en plus, je suis étranger. Le désarroi du psalmiste est clarifié dans les deux derniers versets. Car les menteurs qui l'entourent sont aussi des gens violents. Bien trop longtemps, j'ai habité parmi des gens qui détestent la paix. Je veux la paix, mais quand j'en parle, eux, ils sont pour la guerre. Ce premier dans la série des cantiques des montées établit un rapport étroit entre mensonge et violence. Pour le psalmiste, le mensonge déclenche et favorise la propagation de la violence. Le mensonge qui déclenche la violence, ça pourrait être le titre ou une clé de l'histoire humaine, en commençant avec nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Adam et Ève se sont laissés tenter par un grand mensonge. Le grand mensonge selon lequel créatures qu'ils étaient pouvaient mieux que leur créateur savoir ce qui était bon pour eux. Ce grand mensonge, je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi, ce grand mensonge est venu se loger dans le cœur de nos premiers parents comme un microbe mortel. Et nos premiers parents ont légué ce microbe mortel à tous leurs descendants dont nous sommes. Mauvais microbe, appelé parfois péché originel, qu'on pourrait aussi appeler le maudit moi d'abord. Le mot dit moi d'abord. L'histoire biblique montre à quel point ce grand mensonge a très vite créé de la violence dans la famille d'Adam et Ève. Pensons à Caïn et Abel, leurs premiers enfants. Et rappelons la triste histoire de David et Bathsheba lorsque le roi s'est laissé tenter par le grand mensonge. Le maudit moi d'abord. Je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi. Et comment ce mensonge a généré d'autres mensonges et des violences successives dans sa propre famille. L'histoire de l'humanité montre que lorsqu'on écoute le grand mensonge pour vivre selon ses propres avis et ses propres désirs, les relations communautaires, les relations personnelles deviennent conflictuelles et violentes. Il produit des sociétés caractérisées par l'oppression et l'injustice. Avec grande lucidité, l'apôtre Paul rappelle l'actualité de ce psaume 120 aux chrétiens en 1 Pierre 2. Mes chers amis, vous êtes dans un monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire au grand mensonge. Ils font la guerre en l'âme. Les désirs de l'homme livré à lui-même produisent des conflits de tout genre partout dans le monde. Pierre affirme que résider là où les gens se livrent à leurs propres désirs n'est pas un lieu très confortable pour le croyant. La conclusion du psaume laisse le pèlerin, le croyant, dans un certain désarroi. Moi, je veux la paix, mais quand j'en parle, eux, ils sont pour la guerre. Et ainsi termine le psaume 120. Ce n'est pas très joyeux, hein? Il y a de la consternation. Cette consternation du psaume 120 introduit le psaume 121 que nous allons maintenant lire ensemble. Merci à nos techniciens. C'est la Bible du semeur. Je pense. Oui. La Bible du semeur, la traduction appelée du semeur. Oui, oui. Il y en a tellement de traductions aujourd'hui. Mais voilà, c'est celle que nous utilisons. Psaume 121, deuxième cantique des montées. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il ? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas, ton gardien ne dormira pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. L'Éternel sera ton gardien, l'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Et durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal, ni la lune au cours de la nuit. Oui, l'Éternel te gardera de tout malheur. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. Amen. Alors, vous remarquez que la situation du psalmiste a changé. Qu'est-ce qui a changé ? Hein, comment ? Il y a confiance, oui, et même physiquement. Dans le psaume 120, il est un petit peu, moi je dirais un peu coincé, dans ces pays hostiles. Il est un peu comme comme enfermés dans un monde hostile. Hein? Il se tourne à gauche, à droite, il dit « Je suis entouré par le mensonge et la violence. » Et qu'est-ce qu'il fait dans le psaume 121? Il lève les yeux vers quoi? Qu'est-ce que le texte dit? Vers une montagne, c'est-à-dire qu'il est en route. Hein? Il est en route. Il ne reste pas là où il était. Il était en route. On va le regarder ensemble. Ce psaume est parmi les plus aimés de tout le psautier. Dans ma famille d'origine, on lisait ce psaume avant de partir en voyage ou avant le départ d'un de mes frères et sœurs pour partir dans une colonie ou pour partir aux études, pour partir au mariage. Ça. Donc, ce psaume s'est inscrit tout à fait dans ma conscience comme un psaume de départ. La popularité de ce psaume parmi les chrétiens s'explique pour plusieurs raisons. D'abord, par l'universalité de l'image qu'il introduit. Je lève les yeux vers les montagnes. Et le psalmiste n'explique pas en quoi consistent ces montagnes. C'est une image. Il nous fait travailler notre propre esprit, notre imagination. Quand le psalmiste dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» On comprend que les montagnes sont comme un défi. Hein. Il a besoin d'aide. Et il ne fait pas du tourisme. Ça. Il ne fait pas une marche sans défi et même sans danger. Et puisqu'il ne précise pas en quoi consiste cette montagne qui l'attend, il nous invite à réfléchir aux défis devant lesquels nous nous trouvons. Le chemin pour le psalmiste était peut-être redoutable parce que il suivait des chemins accidentés, propices aux chutes. Il y avait peut-être des brigands qui l'attendaient la nuit. Le psalmiste ne précise pas pourquoi cette montagne, cette image de montagne, était pour lui redoutable. Il nous invite à réfléchir, à imaginer les réponses possibles et par la suite de nous poser la question personnelle, quelles sont mes montagnes? Quelles sont les montagnes, les défis, peut-être risqués même, que j'affronte présentement? Quelles sont les montagnes devant moi, dans ma vie professionnelle, dans mes études, dans ma vie familiale, dans ma vie spirituelle devant Dieu? Et nous en avons tous. Nous en avons tous. La vie est faite de défis et de dangers. Dans la suite du premier verset, le psalmiste reconnaît sa vulnérabilité. D'où me viendra le secours? Il ne dit pas « faut que je sois fort ». Il dit « il faudrait que quelqu'un vienne à mon aide face à ces montagnes ». Il reconnaît son besoin d'aide, il reconnaît sa vulnérabilité. Et dans le deuxième verset, il affirme « mon aide viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre ». J'aime beaucoup ce verset. Le psalmiste a l'assurance que son aide viendra de quelqu'un beaucoup plus grand que les montagnes. celui qui a fait les montagnes, le Créateur des cieux et la terre. C'est pourquoi le psalmiste peut avoir l'assurance que son aide sera à la mesure des dangers et des défis qu'il affronte. Dans ces deux premiers versets du psaume 121, le psalmiste nous montre le chemin de la prière en trois étapes. Tout d'abord, comme le psalmiste, de nommer nos montagnes, hein, de ne pas essayer de les cacher de notre propre esprit, de nommer nos montagnes, de présenter à Dieu nos préoccupations, nos difficultés, nos angoisses, nos besoins. Lève tes yeux vers tes montagnes. Reconnais-les. Regardons-nous tous bien nos montagnes. Mais ensuite, en deuxième lieu, reconnaître que nous ne sortirons pas seuls. Reconnaissons notre vulnérabilité, notre besoin d'aide, de poser la même question, d'où me viendra l'aide? Qui viendra m'assister? Qui viendra à mon côté? Et enfin, notre confiance dans ce grand Dieu créateur. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Voilà une démarche de prière qui est utile, je pense, pour nous tous. Un changement de perspective s'opère dans ce psaume entre les versets 2 et 3. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Dans les deux premiers versets, le psalmiste parle de lui-même. Utilisons la première personne au singulier. Je lève mes yeux. Mon secours vient. Mais à partir du verset 3, le psalmiste donne l'impression de parler à quelqu'un d'autre. Il explique à cette tierce personne le bien fondé de sa confiance exprimée dans le verset précédent. On a l'impression que le psalmiste exhorte cette personne en disant « Dieu sera ton gardien, le soleil ne te causera aucun mal. » Dieu te gardera de tout mal. Dieu veillera sur toi. Mais à qui parle-t-il? Il est en train surtout de parler à lui-même. Il entretient une conversation intérieure avec lui-même. Il se dit à lui-même, « Dieu sera ton gardien, mon vieux. » Dieu va veiller sur toi. Quand le psalmiste parle à lui-même, n'est-ce pas, à la troisième personne, ça fait penser au premier verset du psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Hein? Il s'exhorte lui-même. Ou dans le psaume 42 que nous avons chanté. Pourquoi, mon âme, es-tu si abattue? Hein? Parler à soi-même. Nous parlons tous à nous-mêmes. Tout le monde discute avec lui-même. On rumine, on médite. Ces conversations intérieures se focalisent souvent sur des sujets négatifs. Nos chagrins passés. Nos anxiétés face à l'avenir, les défauts et les animosités des autres, nos propres défauts. Ah oui, ces conversations intérieures peuvent devenir très, très lourdes. Dans le verset 3 et suivant, Le psalmiste, vous l'avez remarqué, est en train de focaliser sur Dieu. Il pratique la discipline qui consiste à parler à soi-même au sujet de Dieu. C'est ce qu'on appelle parfois la méditation. La méditation chrétienne, ce n'est pas juste de laisser ses pensées vaguer là où ils vont. La méditation, c'est de parler à soi-même au sujet de Dieu. Et dans ce texte, le psalmiste nous donne des paroles pour faire comme lui, pour apprendre à méditer. Je ne connais pas un texte d'apprentissage à la méditation mieux que le psaume 121. Le psalmiste pose implicitement la question, pourquoi est-ce que je peux avoir confiance que Dieu m'accordera tout dont j'ai besoin pour affronter cette grande montagne devant moi? Et il répond à lui-même. C'est comme s'il dit, mon âme, c'est parce que Dieu ne dort pas. Mon âme, c'est parce que ton Dieu reste aussi proche de toi que l'ombre. Mon âme, Dieu te gardera de tout malheur, ton Créateur. Mon âme, Dieu gardera ta vie. En hébreu, littéralement, Dieu gardera ta personne. Ta personne. Dieu promet de garder notre vraie personne, celle que lui seul connaît et que nous ne découvrons que lorsqu'il revient dans la plénitude de la résurrection. Ta vraie personne. Dieu la garde précieusement en attendant le jour de son retour. C'est une promesse extraordinaire que nous recevons de ce psaume 121. Et le psaume, le psalmiste conclut sa méditation, son discours à lui-même, comme on dit, par l'affirmation « Dieu te gardera ton départ et ton retour aujourd'hui et pour l'éternité. » Dans ces derniers mots, « aujourd'hui et pour l'éternité », le psalmiste revient à la question du premier verset. Comment faire confiance face aux défis, aux dangers, aux grandes montagnes qui nous attendent? Parce que jour après jour, Dieu nous garde sur le chemin qui mène à l'éternité. Je pense que je reconnais la voix de ma petite fille. La voix de la montagne, voilà, c'est ça. Lorsque tu pars le matin, en voiture, en route pour ton travail, lorsque tu pars en bus le matin pour ton travail, pour l'école, sache que tu es en route avec Dieu. Tu es sur la route de l'éternité. Pour conclure, le psaume 120 nous rappelle à quel point notre milieu social et même notre propre nature nous met mal à l'aise à cause de la séduction du grand mensonge. Le psaume 121 nous montre comment se détourner de ce milieu du grand mensonge et qui est même présent dans nos propres cœurs pour porter notre regard sur la grandeur et la fidélité de Dieu en Jésus-Christ. Je vous encourage vivement à vous entraîner à la prière et à la méditation avec le psaume 121. Et si vous le faites, sachez que vous êtes en bonne compagnie. Amen. Et maintenant, nous allons nous approcher un petit peu de la tradition juive de chanter ces psaumes. Nous n'allons pas le chanter, mais en forme poétique, nous allons le réciter ensemble si nos techniciens arrivent à le mettre sur l'écran. Oui, on va voir s'il arrive. Sinon, ça sera pour cet après-midi. Ah, juste 2 minutes. Voilà. 2 minutes de grâce. Est-ce qu'il y aurait une question, une remarque pour clore notre temps ensemble? Oui. Question, s'il vous plaît. Oui, oui, ça c'est une très belle et grande question, parce que le psaume 119 est un psaume, en fait le psaume 119 est, est une collection de 21 petits psaumes, de 8 versets, chacun les uns après les autres, où on chante la grandeur de la loi de Dieu. Et c'est un petit peu comme en répondant, si je comprends bien, parce que ce qui vient après le psaume 119 est intéressant. Ce qui vient avant est aussi intéressant, parce que ce sont les psaumes de la Hallel qui précèdent le 119. Et le 119 qui est une série de chants à la gloire de notre Dieu qui parle avec nous, qui communique avec nous, qui cherche un rapport personnel avec nous, cette vérité extraordinaire est placée quand même dans le contexte de notre vie réelle de tous les jours, qui est une vie faite de consternation, de pèlerinage, de confiance et aussi de célébration. Voilà une réponse très courte sur une très belle et grande question qui a occupé beaucoup l'esprit aussi des exégètes depuis des millénaires. Voilà, encore une question, une remarque, et ensuite on va réciter ensemble ce psaume 121. Alors je propose, vous voyez, c'est en couplet, de deux lignes. Je vais regarder, je vais lire le premier couplet et vous allez tous ensemble répéter. C'est ainsi que nous allons réciter ensemble le psaume 121. On y va? Voilà. Et vous pouvez monter le texte, nos techniciens. Voilà, c'est ça. Oui. Oui, on peut monter sur la montagne. Voilà, je commence et vous répondez. Je regarde vers les sommets, qui saura me protéger? Il garde ton pied de glisser, jour et nuit reste éveillé. Proche est toujours ton Seigneur, il reste ton sûr protecteur. Ta personne, Dieu gardera, de tout mal te défendra. Le Dieu qui a tout créé, partout va t'accompagner. Alléluia. Merci. On peut reprendre place.